Chapitre 6.
Tu n'as pas confiance en moi, m'a dit l'homme. Frank, appelle-moi Frank, m'avait-il dit l'après-midi de mon arrivée. Ensuite, il m'avait serré la main. Une vraie poignée de main, pendant qu'à côté de lui, sa femme, Sandra, hésitait, ouvrait et fermait les poings. Sans doute le genre à vous prendre dans ses bras, mais qui essayait de se retenir.
« Ce n'est pas grave »,
a-t-il continué en me regardant droit dans les yeux. « Pour être franc, je n'ai pas non plus confiance en toi. Trop tôt pour ça. Nous en sommes encore à faire connaissance. » Je n'ai rien dit. Que voulez-vous répondre? Nous étions dans une clairière en pleine forêt. Devant nous, punaisée à une vieille palette en bois, une cible toute neuve, apportée par Franck. À nos pieds, le sol était jonché d'étuis de cartouches, de capsules de bouteilles, de mégots de cigarettes. Tous les gens du coin venaient ici, m'avait expliqué Franck pendant le trajet. Un vrai stand de tir pour Pecno. Cela faisait environ 4 semaines que je vivais chez les Duval. Dans certaines familles d'accueil, on a droit, disons, à un cookie ou même à un gâteau pour fêter le premier mois. Mais chez les Duval, on allait faire un carton. De l'arrière du pick-up, Franck a sorti une table pliante qu'il a montée. Puis il a apporté 2 paires de lunettes de protection, un sachet de bouchons d'oreilles et des boîtes de munitions. Enfin, il a pris, derrière le siège conducteur, une mallette noire avec code secret, à peine plus grande qu'une boîte à sandwich. Le pistolet. Ou bien les pistolets. Je savais pas très bien ce que je fichais là. Emmener un gamin avec mes antécédents à prendre à tirer, il fallait le faire. Franck a composé le code de la mallette de transport. Comme il n'a fait aucun effort pour cacher l'écran, j'en ai fait aucun pour détourner les yeux. Je ne suis pas bavard, vous dirait ma conseillère de probation. Mais je suis observateur. Là encore, vu mon passé, le contraire serait étonnant. Franck a ouvert la mallette. L'intérieur était garni d'une mousse alvéolée noire. Ça ressemblait à une boîte d'œufs ou peut-être à ces mousses acoustiques dont on tapisse les murs des studios d'enregistrement. Bien au chaud au milieu, noir sur noir, le pistolet. Plus petit que je ne l'aurais cru. Et flippant. Jamais je n'avais tiré auparavant, si on ne compte pas les jeux vidéo. J'ai fourré mes mains dans mes poches, un matin d'octobre frais. J'avais les pieds et les mains humides de rosée. Une fois encore, qu'est-ce que je foutais là? Franck a levé l'arme. « Un Ruger SR-22 » a-t-il claironné. « Une capacité de 10 plus un coup, soit 10 balles dans le chargeur, une dans la chambre. Alors commençons par le commencement. Une arme est un outil. Et les outils se traitent avec respect. » Il me regardait comme s'il attendait une réaction. Pour finir, j'ai acquiescé. J'étais obligée de lever la tête pour le regarder dans les yeux. Franck était un grand gaillard, plus d'1,90 m. Une solide carrure, mais plus un physique de basketteur que de footballeur. Prof de sciences au lycée de la ville, il avait grandi ici, le vrai gars du coin. Quand il avait mon âge, il filait un coup de main à la ferme laitière de ses parents matin et soir, tout en faisant des étincelles sur le parquet en tant que joueur vedette de son équipe universitaire. Et passait la plupart de ses samedis soirs à s'enfiler bière sur bière en cherchant les problèmes. Il savait ce que c'était que d'être un adolescent, m'avait-il dit le soir de mon arrivée. Il savait ce que c'était que d'avoir des problèmes. Sa femme et lui avaient accepté de m'accueillir en toute connaissance de cause. Il savait ce que j'avais fait dans le passé, et ce que j'étais encore capable de faire. Il savait aussi que j'étais au pied du mur. J'avais 17 ans. D'ici 1 an, j'allais sortir du dispositif de l'aide à l'enfance. Les Duval étaient ma dernière chance de me faire une place quelque part. Pas d'être adoptée, j'étais entrée dans le système trop vieux pour nourrir ce genre de rêve utopique. Mais si je jouais bien ma carte, si je leur faisais un peu confiance, bref, si je m'achetais une conduite, je pourrais au moins y gagner une famille d'accueil pour le reste de ma vie. Un endroit où aller à Noël, pour Thanksgiving. Surtout, m'avait expliqué ma conseillère de probation, il pourrait me guider pour relever tous les grands défis qui m'attendaient. Trouver un travail, m'installer, payer mes factures. En route pour le monde réel. Le soutien de 2 figures parentales bienveillantes me serait d'un grand secours. Du moins, c'était ce que m'avait dit la conseillère. J'avais pas eu le cœur de lui confier, pas plus que je n'ai confié au grand Franck les ennuis, ça me connaît, si sûr de lui,
Ni à Sandra, viens là que je te fasse des cookies et des câlins. Que la famille et moi, ça faisait deux. C'était du passé. Quand on manipule une arme, m'a dit Franck, le 22 toujours à la main, la sécurité passe avant tout. Ne jamais diriger une arme vers un objet sur lequel tu ne voudrais pas tirer, même si tu penses qu'elle n'est pas chargée. Il m'a regardé. Ne jamais diriger une arme vers un objet sur lequel je ne voudrais pas tirer, ai-je répété avec un temps de retard. Il y a des gars qui imaginent qu'un rayon laser sort de la bouche du canon et que tout ce qu'il touche est coupé en deux. Si tu regardes le Ruger à l'instant, qu'est-ce que je touche ? L'arbre là-bas. Est-ce qu'on peut se permettre que cet arbre soit coupé en deux ? J'imagine, oui. Et maintenant ? Tu viens de perdre ton gros orteil. Exact. Or, j'ai besoin de mon gros orteil. Donc je ne vais pas laisser pendouiller le pistolet comme un crétin au risque de me tirer une balle dans le pied. D'accord. Deuxième règle d'or. Ne jamais partir du principe que l'arme n'est pas chargée. Même si je te la donne en affirmant qu'elle est vide, tu vérifies. Chaque fois. Sans exception. Il disait cela d'un air très sérieux. Sinistre même. Une fois de plus, j'ai hoché la tête. Il a reposé l'arme sur la table, le canon toujours dirigé de l'autre côté vers l'arbre. Un arbre mastoc, un tronc épais couvert de plaques plus pâles, de la mousse vert cendrée. Ou du lichen, peut-être. Je confondais les deux. Franck aurait su la différence, si je lui avais posé la question, évidemment. Vérifier qu'un pistolet est vide se fait en deux temps. Premièrement, éjecter le chargeur. Franck a repris le Ruger, sa grosse main autour de la poignée. Approche. Prends-le. Il va pas te mordre. Et si tu n'es pas capable de le manipuler à vide, alors tu n'es clairement pas prêt pour le tir sur cible. Je me suis forcée à sortir les mains de mes poches et j'ai pris sur moi pour avancer d'un pas. Le plus marrant, en fait, c'est qu'il aurait suffi que Franck m'interdise catégoriquement de toucher ses armes pour que je me mette à tripoter tout son arsenal dans les 3 secondes. Comme il avait lu mon dossier, il était certainement au courant. Interdisez quelque chose à un jeune atteint d'un trouble oppositionnel avec provocation, et vous pouvez être pratiquement certain qu'il commettra l'infraction en question. Au contraire, du moment qu'il me donnait la permission, qu'il me proposait même carrément de m'initier au tir, je n'avais même pas envie de ce flingue à la con. J'aurais plutôt voulu que le pistolet, les balles et les arbres couverts de mousse ou de lichen disparaissent. Franck m'a mis le Ruger dans la main droite. Il était plus lourd que je ne m'y attendais. C'est la première idée qui m'a traversé l'esprit. Mais aussi agréable. La poignée en caoutchouc était pile de la bonne taille pour ma paume. L'arme était compacte, mais pas épaisse. Plus facile à manier, en tout cas, qu'une batte de baseball. Bien. On retire son doigt de la détente. Ne jamais la toucher avant d'être prêt à tirer. Juste une bonne habitude à prendre. Je te recommande plutôt de poser l'index au-dessus du pontet. Tu sens comme la poignée est caoutchouteuse dans ta main ? En fait, c'est un manchon amovible. Tu peux le retirer. La carcasse, elle, est en acier mat. C'est ce que tu sens sous ton index. C'est bien d'avoir conscience de ces détails. De cette manière, la prise en main de ton pistolet et le positionnement de ton index deviendront de plus en plus automatiques. Tu feras ça au toucher. C'est comme ça que tu sauras que tu es devenu bon tireur. Je n'ai rien dit, mais il avait raison. Je sentais les différentes textures, le caoutchouc sous ma paume, l'acier mat sous mon index. C'était réel. Maintenant, tout en gardant ton doigt éloigné de la détente et le pistolet dirigé de l'autre côté, il faut que tu vérifies si ton arme est vide. Première étape, éjecter le chargeur. Regarde à gauche de la poignée, juste derrière le pontet. Tu vois le petit bouton noir ? Appuie dessus avec ton pouce. Je l'ai fait et aussitôt le chargeur est sorti par la base de la poignée. Pas complètement, mais juste assez pour que je puisse finir de l'extraire avec ma main gauche. Il était étonnamment léger. Ce chargeur a une capacité de 10 coups. « Combien tu vois de cartouches ?» m'a demandé Franck. Question bizarre. Aucune, il est vide. Donc le pistolet est vide. Je l'ai regardé. C'était pas parce que je n'avais jamais tiré que je ne voyais pas les pièges. Tu as dit première étape, donc il y en a au moins une autre. Bien vu. Tu te rappelles ce que j'ai dit d'autre à propos du Ruger, quand je te l'ai présenté?
10 plus 1 coup, ai-je fini par me souvenir.
La chambre.
10 dans le chargeur que je viens d'éjecter, mais ça en laisse une dans la chambre.
Excellent. On n'est jamais certain qu'un pistolet soit vide tant qu'on n'a pas regardé dans la chambre. Donc, d'abord on éjecte le chargeur et ensuite on tire la glissière vers l'arrière pour inspecter la chambre. Une fois que tu as sorti le chargeur, tu poses ta main gauche sur le dessus du pistolet. La glissière est en métal poli. Là encore, sans la différence de texture.
Ouais.
Poignée en caoutchouc, carcasse en acier mat, glissière en acier poli. Ok?
Ok.
Le pistolet tenu à bout de bras, tu te sers de ta main gauche pour manœuvrer la glissière vers l'arrière. Ça peut demander un peu d'huile de coude, c'est pas grave.
J'ai tiré plus fort. D'un seul coup, la glissière a reculé.
Surpris, je l'ai lâchée et elle est revenue à sa place d'un coup sec.
« Mollo, mon gars !»
a dit Franck en riant. « C'est la meilleure façon de se faire pincer la main et d'y laisser un bout de peau. Il faut que ça coulisse en douceur. Tu tires en arrière sans à-coup et sans lâcher. »
Encore 2 tentatives plus ou moins ratées avant de réussir enfin.
« Regarde dans la chambre !» m'a dit Franck.
« Vide. »
Maintenant, tu peux laisser la glissière revenir doucement vers l'avant. Ou alors, autre option, sur la gauche du pistolet, tu vois ce verrou noir au-dessus du pontet et devant la sûreté? Si tu le relèves, il bloquera la glissière en position ouverte.
J'ai trouvé le verrou et je l'ai relevé maladroitement.
Franck m'a repris le pistolet et l'a posé sur la table pliante. Un point de méthode entre nous. Toujours présenter une arme exactement de cette manière. Chargeur sorti, chambre exposée. Comme ça, toi, moi, n'importe qui peut constater que l'arme est vide. Compris?
Compris.
Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Mais avant de charger et de parler tir sur cible, il faut d'abord qu'on détermine ton œil directeur.
C'était le droit, mon œil directeur. Et pas la peine de fermer l'autre quand on presse la détente. Il faut plutôt se concentrer sur le fait de regarder la ligne de mire et de la pointer sur la cible en se servant de son œil directeur.
Franck a tiré le premier et vidé le chargeur.
Un beau tir groupé, presque tout dans le mille.
J'ai pensé qu'il voulait frimer devant le petit jeune. Mais il n'a pas fait le fier. Juste un petit hochement de tête pour lui-même. Il était à la hauteur de ses attentes. Ensuite, ça a été mon tour. Lunettes de protection, bouchon d'oreille. Rattraper les cartouches qui roulaient sur la table pliante alors que je galérais à en mettre 3 dans le chargeur. Juste de quoi me lancer. Franck m'a positionné à 3 mètres de la cible, tellement près que j'aurais pu cracher dessus. Ensuite, en piste. La course de la détente était plus longue que je ne m'y attendais. Quant au recul, je ne m'y attendais pas du tout. Le pistolet a fait un bond dans ma main. Et l'arbre à droite de la cible a perdu un peu de mousse, ou de lichen, dans la bataille. Franck n'a pas du tout eu l'air surpris. Concentre-toi sur la course de la détente, m'a-t-il conseillé. Elle sera longue pour la première balle, courte pour les suivantes. Habitue-toi à cette sensation. Ensuite, on travaillera la prise de visée. Prendre ma visée, expulser tout l'air de mes poumons, actionner la détente en douceur. En fin d'après-midi, j'avais au moins acquis une certaine maîtrise. À 5 mètres, mes tirs étaient à peu près groupés, même si je ne touchais pas la zone rouge. La régularité m'a accordé Franck. Un bon début. Il a moins tiré qu'il ne m'a entraîné. Mais à la fin, sans doute pour évacuer un peu de pression, il a fait son show. Il a tourné la cible en papier sur le côté, face aux arbres, de sorte que nous n'en voyions plus que la tranche incroyablement fine. Une seule balle pour toucher cette cible de l'épaisseur d'un cheveu et la sectionner proprement en 2.
Ça fait longtemps que tu tires, ai-je finalement observé. Ce qui ressemblait le plus chez moi à un compliment.
Pratiquement depuis toujours, a-t-il répondu en vérifiant que le chargeur et la chambre étaient vides avant de ranger l'arme dans sa mallette rembourrée. À la maison, je t'apprendrai le démontage. Tirer n'est que la moitié du plaisir. Ensuite, il faut entretenir son arme. Ensemble, nous avons rangé les bouchons d'oreilles, les lunettes de protection, les boîtes de cartouches, la table pliante. J'ai ramassé ce qui restait de la cible. Il a refermé le haillon du pick-up. Puis il m'a encore considéré, l'œil sérieux, le visage grave. Sais-tu pourquoi nous avons accepté de t'accueillir, Telly ?
Pas de réponse.
Nous croyons en toi. Nous avons lu ton dossier, ce qui s'est passé avec ta famille. Tu te souviens de cette nuit-là, Telly ?
Inutile de demander de quelle nuit il parlait. Toute ma vie se résumait à une seule nuit.
Pas beaucoup.
Je ne le regardais pas, j'ai recommencé à étudier la mousse des arbres.
Est-ce que tu penses que tu as bien fait d'agir comme tu l'as fait ?
J'ai dit non de la tête. Frank s'est immobilisé, m'a regardé un moment.
L'assistante sociale pense que tu devrais envisager de reprendre une thérapie,
a-t-il fini par dire.
On t'emmènera. On fera notre part si tu crois que ça peut t'aider.
Non, merci.
Telly, c'est terrible ce qui vous est arrivé, à toi et à toute ta famille. Et parfois, quand on garde en soi quelque chose d'aussi terrible, ça s'infecte. Ça devient encore pire que ça n'était au début.
Je ne me souviens pas, me suis-je entendu lui dire.
Tu ne te souviens pas ?
Non. Des cris de ma mère, oui. Et de mon père. Mais après la batte de baseball. À partir du moment où j'ai eu la batte entre les mains, je ne me rappelle plus grand-chose.
Quand on est un homme, on fait ce qu'il faut pour protéger sa famille.
J'ai fini par lever les yeux vers lui. Je ne comprenais absolument pas de quoi il parlait.
Ta sœur a défendu ton geste. Elle a dit que tu l'avais sauvé, que tu les avais sauvés tous les deux de votre père.
C'est ça qui compte, Telly. Peu importe ce que disent les autres. Tu as bien agi cette nuit-là. Il faut que tu t'accroches à cette idée. Ça témoigne du petit garçon que tu étais et de l'homme que tu peux devenir. C'est pour ça que nous avons souhaité t'accueillir, Sandra et moi. Tu penses peut-être avoir mal agi, mais nous voyons un garçon qui a fait ce qu'il avait à faire. Et ce garçon mérite qu'on lui offre un meilleur départ dans la vie.
J'ai blessé ma petite sœur. Tu lui as cassé le bras. Elle s'en est remise. Aucun doute que si ton père l'avait attrapée en premier, ça aurait été pire.
Je n'avais rien à répondre à ça. Je ne mentais pas quand je disais que je n'avais guère de souvenirs de cette nuit-là. Un état de confusion mentale, peut-être même une absence, avait essayé de m'expliquer le premier psy. Provoqué par la terreur, le traumatisme, les années de maltraitance. Ce dont je me souvenais, c'était le bruit d'un os se cassant net. Et le cri de ma petite sœur. Un long cri grêle et suraigu qui n'en finissait pas. 8 ans plus tard, il résonnait encore dans ma tête. Je n'ai pas envie de voir un psy.
D'accord, mais on va parler de ce qui s'est passé, Telly, parce que tu en as besoin. Ta vie est en passe de changer. D'ici un an, tu auras 18 ans et tu devras voler de tes propres ailes. Notre mission à Sandra et à moi, c'est de t'y préparer. Tu crois que tu es prêt à être lâché tout seul dans le grand bain ?
Je ne savais pas quoi dire.
Telly, m'a-t-il alors expliqué avec patience, personne n'est prêt à affronter le monde tout seul. Et personne ne devrait avoir à l'être. D'accord ? C'est pour ça qu'on est là. On a 12 mois pour apprendre à te connaître. 12 mois pour que tu apprennes à nous connaître. Ça marche ?
Je ne savais toujours pas quoi dire.
Il a hoché la tête d'un air compréhensif.
D'accord.
Et le tir ? Ça te dirait qu'on recommence ?
J'ai fait oui de la tête.
Il a frappé à petits coups sur le haillon du pick-up et s'est dirigé vers le volant.
Affaire conclue.
Beau boulot aujourd'hui, je dois dire. Tu es vraiment doué, Telly.
Calme, posé.
Continue comme ça et la prochaine fois j'apporte les carabines.